Bonjour, je suis le Dr Claude Garceau de l'UCPQ. J'ai le plaisir d'avoir invité aujourd'hui Émilie Vigneault-Simard, qui est infirmière IPSA avec une spécialisation en santé cardio-métabolique et qui travaille comme infirmière à l'UCPQ en diabète, obésité, réadaptation cardiovasculaire et également au PPMC de l'UCPQ. Dans cette série de balados, nous allons survoler les différentes sections du guidelines de l'ADA en faisant le point sur les nouveautés apportées en 2024 dans la pratique en diabète. Et on va souligner aussi les écarts avec la pratique actuelle à Québec. Alors, bonjour Émilie. Il est important de faire le dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire en 2024.
Absolument. De nombreuses études ont démontré de grands bénéfices cliniques quand les facteurs de risque sont dépistés et traités simultanément. Donc, l'évaluation des facteurs de risque devrait être effectuée annuellement là, chez tous les diabétiques afin de prévenir la maladie cardiovasculaire athérosclérotique, dont l'insuffisance cardiaque. Les facteurs de risque à évaluer sont la durée du diabète, l'obésité, le surpoids, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, le tabagisme actif, l'histoire familiale aussi de maladie cardiovasculaire athérosclérotique précoce, l'insuffisance rénale chronique puis la présence d'albuminurie.
Donc, on voit que dans le diabète, c'est pas seulement qu'une question d'ajustement de médicaments. Il y a quand même un plan médical puis un survol des complications à faire annuellement. Il est important aussi, je pense, de faire le dépistage de l'insuffisance cardiaque.
Oui, en effet, il y a une large cohorte multinationale de 750 000 patients diabétiques qui a démontré, en fait, que l'insuffisance cardiaque puis l'insuffisance rénale, c'était les premières manifestations de maladies cardiovasculaires dans cette population-là. Le risque d'hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque est deux fois plus élevé chez les diabétiques, puis ceux-ci développent souvent l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite ou même préservée. Donc, celle-ci doit être dépistée, évidemment, puis diagnostiquée devant les importants bénéfices que peuvent retirer les patients là, d'un traitement, par exemple, par inhibiteur du SGLT2. Donc, il n'y a pas seulement cette ligne de traitement-là qui diminue les événements cardiovasculaires. Plus, il y a un bénéfice, évidemment, de diminution des hospitalisations pour insuffisance cardiaque.
On verra donc dans nos podcasts un peu plus tard l'utilisation du ProBNP pour et de l'échographie pour vous aider à faire le dépistage simplement en pratique primaire de l'insuffisance cardiaque. Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler, Émilie, de l'outil calculateur du risque cardiovasculaire qui est proposé par l'ADA? Est-ce qu'on devrait utiliser cet outil-là ou est-ce qu'il y en a d'autres au Canada qui sont de meilleure utilité?
Le ASCVD Risk Calculator permet d'estimer le risque à 10 ans de faire un premier événement cardiovasculaire. Donc, ce calculateur de risque-là a été développé pour stratifier le risque cardiovasculaire des patients puis identifier ceux qui pouvaient bénéficier d'une thérapie par statine ou d'un traitement pour l'hypertension artérielle. Le calculateur de risque prend en compte l'âge, le sexe, l'ethnie, la tension artérielle, les valeurs de cholestérol, la présence de diabète, le tabagisme, la prise d'un traitement pour l'hypertension artérielle ou la dyslipidémie ou d'aspirine. On va revoir les indications de traitement d'hypertension artérielle et dyslipidémie un petit peu plus tard, mais un nombre important de patients diabétiques ont déjà une indication claire de traitement. Donc, le calculateur de risque peut nous être utile chez les gens qui n'ont pas d'indication claire de traitement, donc les moins de 40 ans, par exemple, qui présentent plusieurs facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. On pourrait aussi utiliser l'outil chez les diabétiques plus récalcitrants, par exemple, à entamer là, un traitement pour l'hypertension artérielle ou la dyslipidémie afin de chiffrer là, leur risque de faire un événement dans les prochaines 10 années.
Alors, on va parler maintenant de l'hypertension artérielle qui est définie par l'ADA, comme un peu au Canada maintenant, pour des tensions répétées supérieures à 130 sur 80. On va parler maintenant de la cible de l'hypertension chez les diabétiques. Émilie, je t'écoute.
Les cibles de tension devraient être individualisées par un processus de décision partagé. Pour la plupart des patients, on parle quand même d'une cible de tension à 130 sur 80. Dans l'étude SPRINT, qui a fait énormément de bruit en raison d'une diminution là, de 25 % des événements cardiovasculaires, on se rappelle par contre que dans cette étude-là, là, les patients diabétiques avaient été exclus. Donc, ils visaient des tensions artérielles inférieures à 120 sur 80. Dans l'étude ACCOR, Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes, le contrôle intensif n'a pas démontré une diminution des événements, bien que comme paramètre secondaire, une diminution des AVC de 41% a été observée. Par contre, ça venait avec un prix, hein, plus d'hypotension, plus d'hyperkaliémie et davantage d'insuffisance rénale aiguë. Dans l'étude ADVANCE, cette étude-là a démontré qu'un contrôle moyen de tension artérielle à 135 avec du pyrindopril puis de l'indapamide permettait de réduire les événements cardiovasculaires là, de façon significative. Une méta-analyse de 44 000 patients qui a démontré qu'un contrôle de tension à 133 sur 76 réduisait 14 % les événements cardiovasculaires majeurs, comparativement à un contrôle de tension à 140 sur 81. Donc, une diminution de 10 % de mortalité toute cause puis 17 % d'AVC. Donc, la cible de 130 sur 80 semble être un bon juste milieu entre les bénéfices puis les inconvénients.
Donc, on se rapproche vraiment de ce qui est fait au Canada. Est-ce qu'il existe maintenant des évidences pour fixer une cible pour la pression diastolique inférieure à 80 mm?
Il y a l'étude de HOT qui comptait le 18 790 patients qui a démontré que l'incidence la plus basse d'événements cardiovasculaires chez les diabétiques était lorsque la tension artérielle diastolique était inférieure à 80 mm de mercure. Donc, c'est de là que vient la cible.
On parle donc d'agressivité en hypertension, mais il faut quand même individualiser notre agressivité en traitement d'hypertension chez les diabétiques, n'est-ce pas?
Absolument. Puis, on fait fausse route si on applique les mêmes recommandations pour tous. Donc, les patients très âgés avec maladie rénale, avec une fragilité, de l'hypotension orthostatique sont plus à risque, évidemment, d'effets secondaires liés à la médication. On peut les mettre à risque aussi de chute, ce qui peut entraîner des saignements, des fractures de hanche. Faut aussi dire, là, qu'une tension diastolique basse n'est pas une contre-indication au traitement antihypertenseur. Donc, chez certains patients frêles, un compromis est à faire entre la qualité de vie et la réduction agressive de la tension artérielle.
Donc, je dis toujours aux patients, on est fait pour vivre debout, mais pas seulement couché. Je pense que c'est important de retenir la qualité de vie et les autres symptômes plutôt que la survie d'événements cardiovasculaires dans notre agressivité du traitement de l'hypertension. Maintenant, quelles sont les recommandations non pharmacologiques dans la prise en charge de la tension artérielle chez les diabétiques?
En rafale, on parle de perte de poids lorsque c'est indiqué, de la diète DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension. Donc, on réduit le sel, moins de 2300 mg par jour. On augmente la consommation de potassium, 8 à 10 portions de fruits par jour, une consommation de produits laitiers, là, 2 à 3 par jour, faible en matière grasse. On consomme de l'alcool de façon modérée, cesser le tabagisme, augmenter la pratique d'activité physique, là, donc les 150 minutes par semaine qu'on connaît.
Bon, on va parler maintenant des recommandations de traitement médical pharmacologique en hypertension.
Donc, commençons par s'entendre sur quelques définitions là, afin de s'assurer qu'on parle tous de la même chose. L'American College of Cardiology puis l'AHA, on parle de pression élevée là, pour des tensions entre 120 et 129, puis une tension artérielle diastolique inférieure à 80. On parle d'hypertension artérielle quand on a deux valeurs supérieures à 130 sur 80 à deux visites différentes, ou des tensions artérielles supérieures ou égales à 140 sur 110 à une seule visite, là, on peut diagnostiquer l'hypertension artérielle. Donc, si les tensions artérielles sont élevées, on pense aux interventions non pharmacologiques. Si on a une hypertension artérielle, on débute de la pharmacothérapie, évidemment, les interventions non pharmacologiques en parallèle. Si la tension artérielle est supérieure ou égale à 150 sur 90, on peut initier deux classes de médicaments en même temps, plus évidemment les interventions non pharmacologiques, donc une recommandation de grade A. En présence de maladies cardiovasculaires, athérosclérotiques ou un ratio albumine-créatinine supérieur à 30 mg par gramme de créate, on favorise les ISCA et les ARA à dose maximalement tolérée et on effectue un suivi de la fonction rénale 7 à 14 jours post-introduction, puis annuellement. Donc, les autres classes de médicaments peuvent être utilisées aussi là, afin d'atteindre les cibles, dont les BCC, les diurétiques. Il y a une étude qui avait été positive là, pour l'administration au coucher des antihypertenseurs. Malheureusement, les résultats n'ont pas été répliqués dans d'autres études. Donc, il n'y a pas de recommandation formelle de mettre la médication au coucher pour un meilleur contrôle ou pour diminuer les événements.
On voit que c'est un changement par rapport à ce qu'on a dit pendant 10 ans de prendre les médicaments au coucher. Puis je reviens encore sur une des propositions, c'est de commencer deux médicaments en même temps. Lorsque la tension est toujours supérieure à 150 sur 90, une recommandation de grade A. Donc, on va parler maintenant d'hypertension réfractaire, donc une tension qui est non contrôlée avec trois agents, dont un diurétique. Je pense qu'il faut rechercher chez ces patients-là plus de la non-observance, qui est souvent une des causes secondaires d'hypertension. Donc, l'hyperaldostéronisme est assez fréquent. On peut le faire facilement avec une mesure du rapport aldostérone-surrénine. On va rechercher l'apnée du sommeil parce qu'elle est très fréquente chez les diabétiques obèses, jusqu'à 40 % et peut causer une certaine résistance à l'action de nos antihypertenseurs. Et on doit, dans certains cas, penser aux stenoses des artères rénales, bien que les interventions vont rester, dans la plupart de ces cas-là, médicamenteuses. Chez les patients avec hypertension réfractaire, je pense que l'arme secrète, c'est d'ajouter un inhibiteur des récepteurs de l'aldostérone. Malheureusement, ces médicaments-là s'accompagnent de gynécomastie, parfois d'impuissance, d'hyperkaliémie. Et je rappelle à nos auditeurs, la finérénone, on va en discuter plus longuement plus tard, n'est pas indiquée en hypertension réfractaire. Donc, c'est l'aldaltone qui doit être utilisé. Maintenant, Émilie, parlez-nous des recommandations en lipides chez les diabétiques.
Les lipides pourraient faire l'objet d'un podcast à part entière, puis le traitement de la dyslipidémie fait réellement une différence dans le devenir cardiovasculaire des patients. Chaque diminution de 1 mmol par litre de LDL permet de réduire de 21 % le nombre d'événements cardiovasculaires majeurs. Donc, si on résume le changement des habitudes de vie avec les recommandations qu'on a énumérées plus tôt en hypertension artérielle demeure. De plus, une réduction de la consommation des gras saturés et des gras trans s'impose, ainsi qu'une augmentation de la consommation d'oméga 3 et de fibres solubles, de stérol, sont recommandés pour l'amélioration du profil lipidique, donc des recommandations fortes de grade A. Pour les patients diabétiques entre 40 et 75 ans, en prévention primaire, une statine à dose modérée est indiquée. Une statine à dose modérée permet généralement de diminuer le LDL de 30 à 49 %. Pour ceux ayant plusieurs facteurs de risque, une statine à haute dose est indiquée pour obtenir une réduction du LDL de plus de 50 % ou viser un LDL inférieur à 1,8. Il peut être raisonnable aussi d'ajouter de l'ézétimibe ou un inhibiteur du PCSK9 pour atteindre les cibles. On va regarder d'un petit peu plus près là, les évidences. Donc, l'étude SLUR, il n'y a pas d'études spécifiquement en prévention primaire là, lors d'ajout d'ézétimibe ou de PCSK9 à une thérapie par statine. Osler a été une étude open label à long terme qui a permis de démontrer chez des patients en prévention primaire qui représentaient quand même 80 % des participants que l'évolocumab permettait une diminution de 61 % du LDL. Bien que les maladies cardiovasculaires étaient un endpoint exploratoire et non un outcome primaire, une réduction de 18 % des événements cardiovasculaires dans le groupe traitement a été démontrée. Dans l'étude C long term avec l'alirocumab, le praluent, on comprenait environ 30 % de patients en prévention primaire, 33 % de patients diabétiques. Une diminution du LDL de 62 % s'est traduite par une survenue d'événements cardiovasculaires de 1,7 % dans le groupe traitement versus 3,3 % dans le groupe placebo. Donc, une diminution en absolu là, de 1,6 %. L'étude Fourier avec l'évolocumab, le Repatha, comptait 40 % de diabétiques, ce qui a réduit le MACE 3 points, donc décès cardiovasculaire, infarctus, AVC, de 1,2 %, une diminution du risque relatif là, de 20 %. Les bénéfices étaient moins clairs pour la population de plus de 75 ans, possiblement partiellement en lien avec la sous-représentation de cette population-là dans les études. L'obstacle le plus important demeure le remboursement là, des inhibiteurs du PCSK9. C'est pas remboursé en prévention primaire par la RAMQ, donc ces médicaments-là sont couverts chez les patients qui ont une dyslipidémie familiale ou chez les patients en prévention secondaire uniquement, là, qui n'atteignent pas leur cible malgré un traitement optimal. Donc, maintenant, les données pour les ézétimibes sont issues de l'étude IMPROVE-IT, qui comptait des individus de plus de 50 ans en prévention secondaire. Donc, 27 % des participants étaient diabétiques. On a observé une diminution de 2 % des événements cardiovasculaires majeurs en absolu avec la combinaison de simvastatin 40 mg, puis des ézétimibes 10 mg avec un NNT à 50. Si on poursuit avec les autres recommandations en lipides pour les gens diabétiques de 20 à 39 ans, s'il y a présence de d'autres facteurs de risque de maladie cardiovasculaire athérosclérotique, il peut être raisonnable d'initier une statine, une recommandation de grade C. Donc, c'est là où on peut utiliser, par exemple, nos calculateurs de risque là, pour préciser l'indication de traitement. Pour les patients de plus de 75 ans, il est raisonnable d'ajouter une thérapie de statine modérée après, évidemment, une discussion partagée sur les risques puis les bénéfices. Chez les patients intolérants aux statines, l'acide bempédoïque est recommandé pour diminuer les événements cardiovasculaires, une bonne recommandation de grade A. Par contre, ce médicament-là n'est toujours pas commercialisé là, actuellement au Canada.
Donc, je rappelle que ce produit qui a été publié dans le New England est intéressant parce qu'il n'y a aucune myopathie, pas de douleur musculaire, donc ça pourrait nous aider chez les patients intolérants aux statines qui ont besoin d'un médicament puissant.
En prévention secondaire, c'est évidemment une thérapie à haute dose qui est indiquée. Puis, chez les patients diabétiques, de façon très intéressante, là, on vise une cible de LDL inférieure à 1,4 millimoles par litre. Donc, on pourrait s'étendre là, sur le fait que le LDL, c'est peut-être pas le meilleur marqueur, mais bref, dans les lignes directrices, on vise chez les patients diabétiques en prévention secondaire un LDL inférieur à 1,4.
Tu vas me parler maintenant des triglycérides. Je pense que c'était la partie négligée auparavant parce qu'on n'avait pas beaucoup d'interventions, mais ça a changé un peu maintenant.
Absolument. Il faut s'intéresser aux autres paramètres du bilan lipidique. Pour les patients qui ont des triglycérides à jeun de plus de 5,7 millimoles par litre, il faut évaluer les causes secondaires d'hypertriglycéridémie. Donc, par exemple, une consommation riche en sucre raffiné, une consommation d'alcool accrue, puis considérer un traitement médical pour diminuer le risque de pancréatite.
Donc, dans ce cas-là, on va utiliser des fibrates, pas pour l'aspect cardiovasculaire, mais pour l'aspect prévention des complications, dont la pancréatite.
Exactement. Puis, chez les patients qui ont des hypertriglycéridémies là, à jeun modéré, donc entre 2 et 5,6 millimoles par litre, les cliniciens devraient adresser les habitudes de vie. Il y a Dr. Bergeron sur un podcast qui discutait justement que les triglycérides, c'était souvent un excellent marqueur là, de mauvaises habitudes de vie quand ils étaient élevés. Donc, c'est clairement à considérer. C'est là où on doit concentrer notre énergie pour adresser l'obésité, le syndrome métabolique, les facteurs secondaires, diabète, insuffisance hépatique ou rénale, syndrome néphrotique, l'hypotension et médication également à éliminer. Chez les patients avec une maladie cardiovasculaire athérosclérotique ou autre facteur de risque cardiovasculaire traité par statine avec un LDL contrôlé, mais qui présente une augmentation quand même des triglycérides, donc entre 1,5 et 5,6 millimoles par litre, l'ajout d'icosapent éthyl, donc de Vascepa, peut être considéré pour diminuer le risque cardiovasculaire. L'étude REDUCE-IT effectuée avec 8179 patients là, traités par statine a permis de diminuer le MACE 3 points de 26 % en relatif. Donc, ce médicament-là est remboursé par la RAMQ là, sous certaines conditions.
Il faut maintenant spécifier que les fibrates n'ont pas vraiment de place, j'en ai parlé tout à l'heure, pour diminuer le risque cardiovasculaire chez les diabétiques. Même chose, l'acide nicotinique est passé au tordeur. Une chose qu'on voit dans les réseaux sociaux est que la statine à haute dose provoquerait ou augmenterait le risque de diabète. Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos patients?
C'est toute une question, en fait, de perspective. Le risque de développer un diabète en prenant une statine pendant 5 ans est de 1,5 % versus 1,2 % par rapport aux gens qui prennent pas de statine. Il y a une méta-analyse de 91 000 patients qui a démontré qu'il y avait OR de 1,09. Donc, si on traite 255 patients pendant 4 ans, on provoque généralement un cas de diabète alors qu'on prévient 5,4 événements cardiovasculaires.
Statine à haute dose pourrait augmenter le risque de déclin des fonctions cognitives.
C'est vrai, puis c'est parfois une question qu'on se fait poser en clinique. Par contre, il n'y a aucune évidence solide là, qui démontre que les statines entraînent des déclins cognitifs. Les études post-commercialisation qui ont été effectuées par la FDA ont permis en quelque sorte là, de clore ce sujet-là.